t'appelles?
Oui.
Et tu es originaire de Nantes?
Non.
Alors, d'où es-tu originaire?
Je suis originaire du Cellier.
Oui.
C'est une petite bourgade, environ de 3000 habitants, entre Ancenis et Nantes, à 20 km de chaque ville, et en bordure de Loire. Et je suis né le 1923.
D'accord. Et tu habites toujours au Cellier ou aujourd'hui tu habites?
J'habite à Sautron, en ce moment.
D'accord.
Depuis 22 ans.
Depuis 22 ans, très bien. Et entre le Cellier et Sautron, tu as vécu, tu as fait le Cellier et Sautron ou tu as vécu ailleurs entre le Cellier et Sautron?
Évidemment, j'ai vécu ailleurs pendant toutes mes années d'études professionnelles.
Et donc, c'était où?
Alors, d'abord, je suis allé à l'école publique de garçons, puisqu'il y en avait, dans cette petite commune, il n'y avait pas d'école libre de garçons. Et j'ai obtenu mon certificat d'études primaires à 12 ans. Mais avant de partir hors du domicile familial, ma mère m'a trouvé trop jeune pour partir et j'ai pris un an d'études supplémentaires à cette même école. Donc, à 13 ans, 1936, je rentrais à l'école d'horticulture de Pouillé-les-Poncets près d'Angers.
D'accord.
Et après, j'ai fait 3 ans d'études.
Mmh.
Et j'ai obtenu mon brevet, disons, d'études supérieures, d'études agricoles, section horticole.
D'accord, donc à 16 ans.
Et à 16 ans. Et dès la sortie de l'école, je rentre au service des plantations de la ville de Nantes comme jeune ouvrier.
D'accord.
À 16 ans.
Donc tu travailles tout de suite à 16 ans.
Oui. À 16 ans, j'ai entamé, mes études étaient terminées et j'ai entamé ma vie professionnelle.
D'accord.
Et de 99 à 2041, je suis resté donc 2 ans comme jeune ouvrier.
Donc, tu es né en 1899 jusqu'en 2041, à mon avis.
En 1941, 2 ans après. Ben. Et alors, sur les conseils du directeur, de mon directeur général de tous les services de la ville de Nantes, service espace vert, bien sûr,
ouais,
j'ai passé le concours de moniteur horticole et je suis nommé responsable de la section horticole du centre de la mission de restauration paysanne d'Aigrefeuille-sur-Maine en Loire-Atlantique.
D'accord.
La maison de restauration paysanne, c'est un organisme qui avait été créé par Pétain. Mais j'ai quitté le service des espaces verts parce que mon directeur estimait que j'avais autre chose à faire que de rester ouvrier au jardin des plantes de Nantes.
D'accord.
Et au début 1943, l'organisme étant dissous, j'ai travaillé chez un horticulteur nantais dont l'établissement est détruit par les bombardements le 16 septembre 1943.
D'accord.
Rue Gambetta. De septembre 1943 à août 1944, le directeur de l'école où j'étais élève me demande de venir faire des cours comme professeur.
À Pouillé. D'accord.
Je suis donc professeur et j'enseigne deux matières, la botanique, autrement dit biologie végétale, et l'art des jardins.
D'accord. Donc tu avais 21 ans.
J'avais donc 21 ans.
D'accord.
Ouais, 21 ans. Je suis rentré en septembre 1943, entre 20 et 21 ans.
D'accord.
Et en mai 1945, intéressé par l'enseignement, ayant appris que les orphelins d'Auteuil avaient l'intention d'ouvrir à Nantes une école d'horticulture, je me suis rendu au siège social des orphelins d'Auteuil à Paris.
D'accord.
Pour poser ma candidature.
D'accord.
Ouais. le provincial des Salésiens, ayant appris ça, m'a dit de bien réfléchir et m'a proposé une même place dans son établissement, dans l'école d'horticulture de Meaux en Seine-et-Oise, tenue par les Salésiens. Autrement dit, au lieu d'aller aux orphelins d'Auteuil, je suis allé chez les Salésiens comme professeur d'horticulture dans une école très renommée, l'école de Meudon Seine-et-Oise.
D'accord. Ouais. Et là, tu es resté combien de temps ?
Là, je suis resté un an.
Un an.
Parce que j'ai été mobilisé.
D'accord.
J'ai été mobilisé, donc à...
22 ans ?
Oui, et j'ai donc... J'étais à Rambouillet, nommé à Rambouillet. À Rambouillet, j'avais, étant donné ma profession, je n'ai, faut bien dire, jamais fait beaucoup de port d'armes. J'avais eu la mission de transformer une friche en un jardin. Ce que j'ai fait. Et puis ensuite, après, j'ai été nommé à Saumur.
D'accord.
À Saumur, à une école de sous-officiers. J'ai donc passé six mois à Saumur.
Oui.
Et pendant que j'étais à Saumur, je me suis marié.
D'accord.
Le 23 juillet 1945. À Saumur, nous avions un classement. J'étais très mal classé. J'étais considéré que t'es un mauvais sous-officier.
D'accord.
J'étais bien trop souvent absent. Je profitais de mes congés pour rester le plus longtemps possible à Saumur. Ma femme venait me rencontrer et j'étais très mal classé. Les affectations en sortant de Saumur étaient faites d'après le classement. On avait un certain nombre de postes à choisir et à ce moment-là, presque tout le monde choisissait l'Allemagne, qui était pour payer pour occuper l'occupation.
Bien sûr.
Ça m'intéressait pas du tout. Et il y avait quelques postes en France, dont quelques-uns vers Bourges, au milieu de la France. Moi, mon idée, c'était de me rapprocher de Nantes le plus vite possible. Et le plus près possible. Et quand je voyais mes collègues, mes camarades choisir l'Allemagne, je me frottais les mains. Et quand je suis arrivé, il y avait Bourges qui était vacant. J'ai sauté évidemment sur Bourges.
Oui.
Je dis, ça me rapproche de Nantes tout au moins. J'ai resté à Bourges quelques semaines. Même à peine. Et on demandait, il y avait d'autres affectations. Et on demandait qu'est-ce qui veut se rapprocher de la côte. J'ai postulé, je dis moi je veux Nantes. Il dit vous allez aller à Nantes. Ça m'arrangeait très bien. Étant donné que j'étais marié, ma femme habitait Nantes. Je suis resté, on a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui est candidat pour aller au bureau. Candidat au bureau.
Alors, qu'est-ce que c'était, le bureau ?
Le bureau, c'était la paye, distribution de cigarettes, surveillance de toute la cuisine, approvisionnement...
Toute l'intendance, en fait.
Oui, toute l'intendance. Et, comme j'avais au-dessus de moi un sergent-chef qui revenait d'ailleurs d'occupation... Il n'aimait pas, il aimait beaucoup mieux aller en ville que de rester à son bureau. Je ne l'ai pratiquement jamais vu. Et c'est moi qui, en fin de compte, faisais tout le travail qui normalement devait être fait par un supérieur. Je sais, on s'en est aperçu rapidement, mais la première nuit, je suis allé coucher, je suis resté à la maison, à la caserne couchée. Je me suis dit, c'est pas tout à fait ce que je veux. Mais je travaillais beaucoup. Hein. Et j'ai eu un lieutenant qui était sympa, un jeune lieutenant sympa, et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux maintenant coucher chez moi? Allez coucher chez moi. Où habitez-vous? Oh, je dis, c'est pas très loin, c'est à Nantes, c'est à Saint-Félix, c'est à Nantes. Il me dit, je suis d'accord, mais à condition que vous reveniez travailler régulièrement et sans retard à la caserne. Je lui ai dit, ok, ok. Mais je reviendrai tous les matins à l'heure. Et en effet, je suis revenu tous les matins à l'heure.
Donc en fait, ça a été un privilège.
Oui, mais j'avais tellement de travail que j'apportais du travail à la maison, hein, le soir. Parce que j'étais, disons, le responsable de toute la gestion. Hein. Et la meilleure preuve, c'est que mon ordre de démobilisation, c'est moi qui l'ai signé.
Oui, donc.
Alors, je signais les ordres de démobilisation. Et voilà. Hein. Et après,
donc après cette période de mobilisation,
je suis rentré au Jardin des Plantes.
D'accord, donc tu es revenu ou tu as
revenu
comme
revenu au Jardin des Plantes comme ouvrier.
D'accord.
Et c'est par, disons, concours interne que j'ai gravi tous les échelons pour devenir, en fin de carrière, directeur du Jardin des Plantes de Nantes.
D'accord. Et ça, c'était donc jusqu'à quand tu as été en activité?
Ben jusqu'à 60 ans.
Jusqu'à 60 ans, donc il y a 22 ans.
Il y a 22 ans.
Oui,
il y a 22 ans.
22 ans.
Voilà, je suis rentré.
Et donc depuis, tu es à la retraite?
Je suis à la retraite, mais il faut dire que mon activité professionnelle me donnait quand même, il faut reconnaître, beaucoup de temps libre. Beaucoup de temps libre, parce que c'est pas moi qui pêchais et qui taillais et tout ça. Hein. Bon, j'avais des ouvriers qui savaient le faire aussi bien que moi, sinon mieux que moi. Hein. Alors, sur le plan professionnel, je suis rentré dans les associations, disons, horticoles.
Oui, donc en fait, ça, c'était tes loisirs.
C'était mes loisirs. C'était extra-professionnel.
Extra-professionnel.
Et là, en 19... J'étais évidemment un gamin à ce moment-là, puisqu'on m'appelait le petit genou. J'étais le plus jeune, et de loin, de tous les autres, bien sûr. Et j'ai donc gravi un petit peu tous les échelons d'une association qui s'appelait le Comité Horticole et Maraîcher de Nantes. Membre du bureau, et après secrétaire général adjoint, et à ce moment-là on faisait beaucoup d'expositions horticoles. Et en 1954, nous avions fait une belle exposition horticole à Nantes, qui a eu beaucoup de succès. Et en 1954, je suis allé voir une exposition à Valenciennes, une exposition horticole à Valenciennes. C'était une très belle exposition horticole avec des participations belges et hollandaises. Mais très bien. Et quand je suis revenu, je me suis dit, mais non, disons, fort du succès de l'exposition de 1954, j'ai dit, on peut faire mieux. On n'a qu'à faire à Nantes une grande manifestation horticole à caractère international. Et j'ai proposé en 1954, en revenant de Valenciennes, j'ai proposé au comité, dont j'étais le secrétaire général adjoint, l'idée de faire une grande manifestation horticole internationale. Et on l'a appelée Floralie de Nantes, internationale de Nantes.
D'accord.
Il faut reconnaître que l'idée a été accueillie sans aucune difficulté, au contraire, et ils ont fait confiance aux petits genoux. Hein, bon, et nous sommes partis en 56. Voilà, disons, les Floralies de Nantes, et les Floralies de Nantes est une initiative d'André Rousseau au printemps, à l'automne 1954, et il a fallu presque un an ou un an et demi pour le faire, puisque les premières floralies ont lieu en avril 1956.
Et alors ces floralies, en fait, ça, j'imagine que ça a dû te prendre beaucoup de temps.
Beaucoup de temps. Mais comme c'était, disons, une manifestation horticole et professionnelle, et évidemment, une manifestation sans but lucratif, j'étais assez libre de faire un petit peu de monnaie de front et les floralies et mon travail, disons, au jardin des plantes. Hein. J'avais l'accord tacite de la mairie, de l'administration. Je me déplaçais assez souvent, pratiquement sans demander la permission, puisque j'agissais, disons, pour la renommée de la ville de Nantes.
Et alors, comme c'était international, tu parlais avec les gens d'autres langues que le français?
Non, malheureusement, je parlais pas d'autres langues, mais j'avais toujours autour de moi quelqu'un qui, pas de Nantes, mais du pays, qui parlait, qui était interprète et tout ça. Mais il faut dire qu'en 1956, nous avons fait un déficit.
Ah, d'accord.
Oui. Nous avons eu 200 000 visiteurs, mais nous avons fait un déficit.
D'accord.
Et à ce moment-là, plusieurs personnes du comité sont parties. Ils ont dit, ça y est, le bateau prend l'eau, hop,
on arrête
et on s'en va. Alors, je leur ai dit, écoutez, on n'avait pas pu payer un imprimeur et les factures de la ville. Factures de la ville, c'était pas trop, et puis l'imprimeur, on l'a payé après. Et on arrête. Et à ce moment-là, le secrétaire général a donné sa démission.
D'accord.
Moi, j'étais secrétaire général adjoint, et on m'a nommé secrétaire général. Et je leur ai dit, écoutez, vous m'avez fait confiance une fois, continuez, on ne doit pas s'arrêter. Et la plupart m'ont suivi, mais d'autres sont partis. Ensuite. Et on a fait 63, 71, 77.
Alors, au départ, parce que si je me souviens bien, maintenant c'est toutes les 4 ans.
Maintenant, c'est tous les 5 ans, mais au début, c'était pas régulier. 56, 63, 7 ans. 63, 71, 77, 6 ans, hein. C'était pas régulier. Alors, c'était difficile parce que les horticulteurs, les grands horticulteurs, les grandes nations qui exposaient, la Belgique, la Hollande, ne pouvaient pas faire deux grandes expositions dans la même année.
D'accord.
Alors, nous étions 5 villes dans l'Europe, mm-hmm, à faire
cette.
Alors on a dit, bon, maintenant c'est tous les 5 ans. Et voilà. Et cette année, par exemple, c'était Gand. L'année dernière, c'était Nantes. Prochaine.
Donc ça explique le cycle de 5 ans.
Voilà.
D'accord, très bien.
Voilà. Mais donc, il faut dire que cette floralie, en 2000. J'ai commencé en 56 et j'ai quitté en 1990.
En 90, donc tu as pris, entre guillemets, ta retraite des floralies en 90.
Là, j'ai démissionné en 90. Hein,
d'accord.
Parce que, mais il faut dire qu'en 1984, on a fait quand même 600 000 visiteurs en jour.
Énorme.
600 000 visiteurs en jour, c'est énorme. On était la plus grande manifestation de province et la troisième après Paris, Foire internationale de Paris et puis Concours général agricole. Après, d'accord, c'était Floralie de Nantes.
Oui, donc vous aviez en à peine 40 ans,
alors,
vous avez réussi à faire en 20-30 ans.
Énorme. Et alors maintenant, c'était moins. On baisse un petit peu maintenant. Alors, ce qui m'a valu cette action en faveur de l'agriculture m'a valu, en suivant tous les échelons, évidemment, tous les stades, m'a valu ma nomination de commandeur du mérite agricole. C'est une la plus haute manifestation qu'on peut obtenir en agriculture. Et j'ai obtenu aussi la médaille d'honneur de la ville de Nantes par, disons, pour l'action que j'ai menée pendant 34 ans, 56, 90, 34 ans, pour les fleuristes.
D'accord.
Voilà, ça c'est le plan professionnel.
Et alors,
pour le plan social.
Parce que dans tes activités, tu avais. Donc, tu travaillais au Jardin des Plantes.
Bien sûr.
Après, tu avais comme activité extra-professionnelle, toujours dans les fleurs.
Les fleurs.
Les fleuralies. Et tu avais encore une autre activité. Tu avais suffisamment de temps pour faire toutes ces activités.
Oui, j'avais une autre activité. C'est l'activité sociale.
D'accord.
Activité sociale. Je suis un ancien élève de l'école d'horticulture de Pouillé, tenue par les Salésiens. Donc, je suis ancien élève de l'école.
D'accord.
Comme on peut être ancien élève d'une autre école qui s'installe, je ne sais pas, polytechnique, je sais bien. Et évidemment, je savais qu'il y avait des associations en France, mais il n'y avait pas d'association d'anciens élèves de mon école de Pouillé.
D'accord.
Je l'ai donc fondée. Je l'ai fondée, je crois que c'était en 1949. Hein, et je suis devenu évidemment président fondateur, président de Pouillé. J'ai donc été nommé presque aussitôt, hein, en tant que fondateur d'une association, membre du conseil d'administration national. Mmh. Après, la fédération a divisé ça par région. J'ai été nommé président de la région Ouest, bien sûr. Après, j'ai été nommé région Ouest, il y a eu une élection et j'ai été nommé président.
D'accord.
Ça, c'était en 1961.
D'accord. Donc, tu étais président
national.
National.
Des anciens élèves de Don Bosco.
De Don Bosco.
Des anciens élèves de Don Bosco.
D'accord,
qui regroupaient toutes les associations de tous les établissements scolaires de France.
D'accord. Donc ça s'appelle de Don Bosco.
De Don Bosco. Et à ce titre-là, j'ai été nommé vice-président mondial.
D'accord. Il y avait d'autres écoles qui existaient
dans le monde.
Dans le monde.
Dans le monde. Et dont le siège social était à Rome. Mais lorsque j'ai été nommé président, j'estimais que...
Tu as été nommé vice-président et après président.
Vice-président et après président.
Mondial.
Non, merci. Vice-président mondial, j'ai pas été nommé président mondial.
D'accord.
Parce que après, j'ai quitté après. Et à ce moment-là, j'estimais que les activités d'association d'anciens élèves étaient quand même assez réduites. On parle toujours en noir. Quand on a une réunion, c'est le dortoir, c'est le parloir, c'est le réfectoire. Comment va le gosse? Ah, la rougeole, tu t'es marié? Combien t'as d'enfants et tout ça? Le bulletin, évidemment, c'est bien, mais le bulletin, disons, prend les 4/5 des ressources et après il y avait plus rien. Il n'y a plus rien. Autrement dit, c'est amical, c'est bien gentil, c'est bien mignon,
c'est pour
mais c'est
tout.
Prendre des nouvelles comme ça. C'est ça. Hein. Alors j'ai dit, c'est pas du tout ça. J'ai écouté. Moi, je vais vous proposer quelque chose. Don Bosco a passé toute sa vie au service des jeunes défavorisés. Au cours de différents congrès que j'ai pu assister, j'ai trouvé que les anciens élèves avaient la difficulté à prendre des vacances. Parce que les anciens élèves de Don Bosco sont en général de classe moyenne, avec généralement de grandes familles. C'était une époque où on avait 4, 5 ou 6 enfants. Hein. Je dis ça, on va faire autre chose, on va créer une association de tourisme social et nous allons créer une maison familiale pour préserver aux anciens élèves pour passer leurs vacances.
D'accord.
C'était en 64.
En 64.
J'étais président en 61, c'était en 64, 3 ans après. Il faut reconnaître que cette proposition a été accueillie sans aucune restriction et je dois dire avec un certain enthousiasme, parce qu'on voyait par là, disons, le prolongement de l'action sociale de Don Bosco.
D'accord. Donc en fait, c'était un peu de le ce qu'on
Don Bosco s'occupe des jeunes, nous on va s'occuper des adultes.
Voilà.
Hein. Alors, bien sûr, il fallait trouver un terrain. Par relation, les Salésiens étaient un petit peu d'accord avec nous, mais un petit peu simplement. Hein. Bon, ils nous ont proposé un terrain à Châtel, en Haute-Savoie, c'est à côté du lac Léman.
Oui, je vois très bien Châtel.
Châtel, à la frontière suisse.
Oui, oui, oui.
Et nous avons donc trouvé un terrain qui appartenait au curé, à la paroisse.
À Châtel.
À Châtel. Ah, j'ai dit très bien, mais le curé, ben, faut que j'en parle au conseil paroissial et tout, et au bout de 3 ou 4 jours, il n'y avait pas de réponse et tout ça, et j'ai dit, écoutez, arrêtez, c'est fini, vous ne savez pas ce que vous voulez, on abandonne. Et le curé de l'église Saint-Jean-Bosco à Paris connaissait un ami bienfaiteur, bien sûr, hein, qui était architecte à Annecy.
D'accord.
Il m'a dit, monsieur Rousseau, hein, faut téléphoner à cet architecte-là. Moi, d'abord, je vais lui téléphoner pour lui prévenir de votre coup de fil, et vous allez téléphoner. Quelques jours après, je téléphone à ce monsieur que je ne connaissais pas.
D'accord.
Qui était architecte à Annecy. Il m'a dit, ben oui, j'ai eu un petit coup de fil du curé de Don Bosco, très bien, qu'est-ce que vous voulez donc, et tout ça. Et ce monsieur avait son chapeau pour aller à une réunion. On est resté 1 heure au bout du fil. La réunion, il l'a oublié. Bien. Et il m'a dit, c'est pas difficile, vous venez dans 15 jours. Et dans 15 jours, moi je vais prospecter et je vous ferai des propositions. 15 jours après, avec le secrétaire général de l'association, puisque moi j'étais le président, hein, qui était un angevin, un ancien, et avec lequel j'ai passé 3 ans côte à côte à Pouillé.
Un ancien élève
que je connaissais bien. Pendant 3 ans, on est resté côte à côte. Il a fait les mêmes études que moi. On est arrivé à Annecy. Il m'a dit, bon, bah, prenons la voiture. C'était un vendredi. On est parti jeudi. C'était un vendredi matin, ça. Prenons la voiture. Et dis-moi, je voulais vous orienter vers la Clusaz, qui est une grande station, la Clusaz, une belle station. Mais le maire a refusé d'étudier votre cas parce qu'il trouve que le tourisme social est trop populaire et, c'était pas la population
qui recherchait.
Au contraire, disons, nuirait à l'image de marque de la station.
D'accord.
Donc, on dit, on va le chercher ailleurs et on nous a proposé plusieurs terrains. Hein. Et un terrain qui nous convenait au Grand Bornand, qui était une belle station aussi. Très familiale, mais une belle station. Hein. Et on était presque d'accord sur le terrain. Et la vieille dame dit, ben, je suis bien d'accord avec vous, mais il faut quand même que j'en parle à mes neveux. Parlez-en à vos neveux, madame, on viendra vous voir demain matin. Et le même matin, le prix proposé par elle, il multiplié par 2. On dit hop, terminé. Hein? Non, pardon. Et il y avait une autre dame. On est allé voir le maire de Saint-Jean-Baptiste qui était conseiller général. Donc c'était un homme quand même assez affluent. Connaissait une dame qui vendait. Il dit voilà, cette dame-là a besoin d'argent. Elle vend une vieille ferme, elle vend sa maison et elle vend un terrain. Alors elle a besoin d'argent, c'est un des trois. Alors on va voir le terrain. Et le terrain dit ça y est. J'ai dit ça y est. C'est là. Ce qu'il nous faut, hop, c'était le samedi matin, puisque...
Oui, donc vous étiez arrivé le jeudi soir, et le samedi matin, vous aviez trouvé le terrain.
On avait trouvé le terrain, mais attention, mais on partait, nous, samedi soir, hein, à Nantes, on revenait à Nantes. Hein.
Oui.
La dame s'est débrouillée, elle a fait venir le notaire dans l'heure qui suit.
Et
on a... Le compromis
était
signé avant midi.
D'accord. Et vous aviez, en fait, vous aviez comme, comme désir la montagne, parce que Châtel,
bon, mais, on avait la montagne. Pourquoi qu'on avait la montagne? Parce que, étant donné que nous n'avions pas de finances, il fallait une station. Il fallait une station pouvant accueillir les vacanciers en été et en hiver. Mais à Châtel, nous avions prévu une maison familiale de 70 personnes environ.
Oui, donc pas très grand.
Pas très grand. Et lorsque j'ai dit à l'architecte que nous avions prévu 70 ou 75 personnes, il m'a dit, mais vous allez faire faillite.
Pas assez de personnes.
Pas assez de personnes. Il vous faut 200 personnes.
Donc vous avez monté un village pour 200 personnes.
On a monté un village pour 200 personnes. Et il a ouvert en 69.
Oui, donc ça a été très vite entre l'achat du terrain et la construction.
Bah, oui, deux ans et demi. Quoi.
Oui, donc ça a été... Donc ça, c'était le social. Donc c'est des activités,
ça, c'était le social. Alors, le premier village, inutile de dire toutes les difficultés qu'on a eues, on n'a pas dormi tous les jours. Hein. Et là, par contre, je ne pouvais pas travailler sur mon temps, pour reprendre ça, sur mon temps de travail. C'était à la maison.
Oui, c'était vraiment activité extra-professionnelle.
Ah, extra-professionnelle, sociale. Hein. Et nous faisions notre travail après dîner et le samedi et le dimanche.
D'accord.
Je partais à Annecy. Le vendredi soir, après mon travail, j'arrivais le samedi matin, samedi toute la journée, bien sûr, sur le chantier, je repartais le dimanche après-midi, j'arrivais le dimanche soir et lundi matin, j'étais à mon travail, ni vu ni connu.
Et tu n'avais pas de vie de famille, hein?
Moi, si, mais bon, ma femme s'en occupait, il faut reconnaître que ça n'a pas été toujours facile, hein, mais c'est comme
Parce
ça.
Parce que tu as eu combien d'enfants?
Six enfants.
Six enfants?
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils font, ces enfants?
Les deux sont dans les deux premières deux filles dans l'enseignement.
Oui.
Bon. Le troisième Alors, la première est née en 1947.
D'accord.
La deuxième en 1949, et ces deux personnes-là, deux filles, sont dans l'enseignement.
D'accord.
Une d'ailleurs dans l'enseignement public, l'autre dans l'enseignement privé.
D'accord.
Hein? Le troisième est né en 1951.
D'accord.
Il est conservateur au Musée des Beaux-Arts à Nantes.
D'accord.
Ouais. Il a fait sa maîtrise en histoire de l'art et il a été nommé à Nantes. Le quatrième, c'est un garçon, Pascal, en 55.
Oui.
Il est architecte.
D'accord.
À Annecy. Mais il a fait ses études à Nantes, mais il a fait une année ou deux supplémentaires à Grenoble pour avoir son doctorat en urbanisme.
D'accord. Donc
il est architecte des PLG, bien sûr, et urbaniste.
Il a fait une spécialisation. D'accord.
Anne Dominique est née en 1962, fille à Presse, donc ça fait 6, en 1962, et elle travaille à Radio France, une partie de la semaine à Nantes, une autre partie de la semaine à Paris.
D'accord.
Ouais.
Et la dernière?
Et même la dernière, en 1964, elle est au secrétariat à l'école, au collège, au grand collège de Cannes, qui s'appelle Stanislas, le collège Stanislas, c'est un grand collège.
D'accord, très bien. Et donc tous ces enfants ont été élevés par ta femme. Et ta femme alors, peux-tu me parler un petit peu de ta femme?
Ben, ma femme avait déjà pas mal à faire. Elle était secrétaire avant de son mariage.
Oui. Donc elle a fait des études de secrétariat.
Après, bon, bah, elle s'est occupée des enfants, ses enfants, elle avait suffisamment à faire, et elle était, disons, ma secrétaire, disons, particulière, car il faut bien dire que depuis 1967, à peu près, parce que nous on a commencé, disons, les conseils en 1967, jusqu'en 1978, je n'avais pas de secrétaire.
Et donc c'était...
Tout était fait à la maison.
Qui faisait tout.
Tout, sans tout. Secrétaire.
C'était un boulot à temps complet.
Alors peut-être pas, mais tous les jours, et il faut reconnaître que ma femme m'a beaucoup aidé dans le secrétariat, parce que actuellement, ceux qui ont eu un bac, ils font 3 fautes par ligne, tandis que ma femme ne fait pas de fautes, et puis il ne faut pas lui en montrer pour faire le tour de France. Hein.
Et elle est originaire de
Constantinople.
De Constantinople,
oui.
D'accord.
Oui.
Alors, et donc en fait, elle parle le turc.
Le grec.
Le grec. Elle est née en Turquie, mais elle parle le grec.
Le grec, parce qu'elle avait des parents grecs.
Elle avait des parents grecs.
Qui ont travaillé en Turquie, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de Grecs travaillaient en Turquie.
D'accord.
Hein, mais elle parle grec.
Très bien.
Ce qui nous arrange bien lorsqu'on va en Grèce.
Moi, j'imagine. Et elle a quel âge, ton épouse?
Mon âge, moi-même.
Le même âge, c'est-à-dire de la même année. Et tes parents, tu m'en as pas du tout parlé. Ils sont originaires du Cellier aussi?
Oui, ils sont originaires du Cellier. Oui. Mon père est né en... était née en 1890, elle a fait la guerre,
oui.
Mais il a fait la guerre et il a été gazé.
D'accord.
Hein? Il a été gazé, tu sais, à cette guerre-là, il faut dire que pendant la première guerre mondiale, il y avait beaucoup les gaz, hein? Et il est mort à 40 ans.
Il est mort très jeune.
40 ans. Et ma mère...
Et il a fait quoi, donc, pendant sa vie
On tenait un café à Nantes.
D'accord.
Au Point de Rennes. On tenait un café.
Très bien.
Parce que mes grands-parents étaient hôteliers.
Il a pris la suite.
Et puis après, il est allé à Nantes, pensant qu'il n'y avait plus de débouchés. Hein. À Nantes, conseiller.
D'accord.
Et maman est donc devenue veuve à 36 ans.
Oui, donc elle est une veuve très jeune.
Avec 3 enfants. Bien sûr.
Et ta maman était originaire aussi du Cellier.
Du Cellier.
Et donc ta maman travaillait avec ton papa.
Absolument.
Et alors quand son mari est décédé, elle est restée à Nantes ou elle est retournée au Cellier?
Elle est retournée au Cellier. Mon père est mort au Cellier. Parce que... étant donné sa maladie, ma mère, qui était d'ailleurs aidée par une ou deux personnes au café, hein, ne pouvait plus rester. On habitait au-dessus du café, mais au 3e étage, et elle ne pouvait plus faire et le café, et tout, et puis du reste, c'était la fin. On voyait qu'il y avait, à ce moment-là, on mourait du poumon, mais là, on s'appelait des tuberculeux, la tuberculose. Mais en ce moment, on ne meurt plus du poumon, hein, c'est fini.
Oui.
Mais là, on demandait... Et alors, quand mon père est arrivé, disons, quand on voyait qu'il n'y avait plus de rémission, ils sont retournés au Seigneur.
Et donc, ta maman est restée au Seigneur.
Elle est restée au Seigneur après.
D'accord.
Voilà.
Et alors, est-ce que parmi toutes tes activités, tu trouvais quand même le temps de voyager ou...
Non.
Non.
Non, non, je voyageais... suffisamment pour les Floralies.
Oui, donc tu voyageais quand même pour les Floralies. Ah, tu as fait des voyages pour les Floralies.
Ah oui, j'ai fait ça. J'ai fait l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la Bulgarie, je suis allé en Chine.
Tous ces voyages-là, c'était pour les Floralies, pour trouver des exposants.
Pour trouver des exposants.
D'accord.
De manière à augmenter, disons, la participation étrangère aux Floralies, parce que c'est la participation étrangère aux Floralies qui font le renommée de la manifestation. Plus on a... Hein,
bien sûr.
Voilà.
D'accord. Voilà. Et alors, donc, depuis 22 ans, tu habites à Sautron,
oui.
Et tu considères que tu as une vie de quartier ou...
Aucune.
Aucune.
Aucune. Je n'ai pas voulu, du reste, je n'ai pas voulu prendre une vie de quartier, parce que premièrement, j'ai fait d'autres villages de vacances.
Ah Ah oui, donc il y a d'autres choses à faire en plus.
Il y a d'autres choses à faire, parce que le premier village a été, comme je dis, est ouvert en 69, le deuxième en 78, le troisième en 83 et le quatrième en 92. Moi, je suis... ça fait donc 22 ans.
Oui.
Bon, j'avais autre chose à faire
que de
rester ici. Et puis, j'estimais que j'en avais suffisamment fait pour les autres. Et il était temps que je m'arrête et puis laisser la place aux jeunes. Je vois très mal les gens qui se maintiennent à des postes croyant qu'ils sont irremplaçables. C'est pas vrai. Personne n'est irremplaçable. Personne. Et les jeunes, on dit actuellement, je suis très content d'avoir donné ma démission, ce qu'on appelle de l'AEC, Association d'études culturelles des anciennes Don Bosco. Je l'ai donné en 96. Ça fait donc 8 ans quand même.
Oui.
Je suis né en 96, j'avais donc 73 ans.
Oui.
Ben à 73 ans, il est temps de passer la main.
Oui, donc de... Voilà, tout à fait.
Il est temps de passer la main, et je suis très content parce que j'avoue que je suis dépassé...
Par les événements.
Par l'informatique. Tous les employés... On est quand même, notre association est quand même, il y a quand même 120 personnes.
Oui, donc ça devient une
120 personnes, c'est une entreprise. Hein. Nos bureaux, il y a 10 personnes au bureau. Chaque bureau, des bureaux impeccables, hein, très clairs, tout ça. Mais chaque personne a son ordinateur, ses écrans et tout.
Et donc ça,
je ne connais rien. Et quand on ne connaît rien, comme ça, il faut faire confiance aux autres, aux plus jeunes.
Bien sûr.
Hein, mais rester à la tête d'une association où on n'est pas maître de tous les éléments, il faut partir.
Oui, c'est sûr, je comprends tout à fait.
Il faut partir. Moi, je vois des gens qui veulent rester, qui s'accrochent.
Et qui n'ont plus lieu.
C'est ridicule.
Oui.
Ah, par contre, les idées générales, c'est autre chose.
Oui, mais c'est toute...
toute l'administration.
L'administration qui a changé.
Et, il faut dire, l'informatique.
Bah oui, c'est sûr que c'est un autre
informatique. Mais les idées générales, il n'y a pas besoin d'être informaticien pour avoir des idées. Hein.
Non,
dire on ouvre ceci, on ouvre cela. Il y a quand même des directeurs administratifs dans chaque maison. Mais enfin, dans nos villages de vacances, on fait quand même, dans nos villages de vacances, on fait 220 000 journées par an.
Oui, donc c'est très
on
grand.
A 1200 lits. Alors, 1200 lits, 220 000 journées, ça fait 500 000 repas. Et alors, cette activité, disons, sociale, m'a valu la Légion d'honneur en octobre 2000. Qui m'a été décernée par le préfet de région dans les salons même de la préfecture.
D'accord, oui.
Comme activité sociale, et ça m'a été décerné par le ministre du Tourisme. Il considérait que mon action de tourisme social rentrait dans, disons, l'optique, l'esprit du gouvernement, surtout du gouvernement à cette époque, puisque bien que mon activité soit vraiment catholique, eh bien, la Légion d'honneur m'a été donnée par le ministre du Tourisme, qui était une femme, elle était communiste.
Oui. Donc, comme quoi.
Hein.
Ben écoute, je te remercie.